Place Info. 20h-21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Et bonsoir à vous toutes et tous. Bienvenue dans ces informés de l'été. La forêt amazonienne brûle et c'est toute la planète qui s'enflamme à la veille de l'ouverture du G7 à Biarritz. Emmanuel Macron menace de ne plus signer le traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Il accuse le président brésilien de lui avoir menti et de ne pas respecter ses engagements en faveur du climat. Le G7 promet des actions concrètes pour tenter d'endiguer cette catastrophe écologique. Mais finalement, ne sommes-nous tous pas un peu responsables? Après tout, si ces incendies sont plus importants que d'habitude, c'est aussi à cause de la sécheresse, elle-même conséquence des dérèglements climatiques. N'est-ce pas un peu trop facile de rejeter toute la faute sur le président brésilien? Le G7 n'est-il pas d'une certaine manière un pompier pyromane? On en parle ensemble dans cette émission. Au menu de nos discussions également, la rentrée politique du Parti Socialiste. Après plusieurs années de pause, revoilà l'université du parti à La Rochelle, université d'été, avec en ligne de mire les municipales. Le PS détient encore quelques grandes villes. Les municipales peuvent-elles être l'occasion de ressusciter le Point et la Rose? Discussion à suivre. Et puis, elles nous ont fait vibrer en bleu en juin et juillet. Les filles du foot sont de retour sous les couleurs de leur club respectif. C'est la reprise du championnat de D1 ce week-end. Un championnat désormais diffusé comme celui des garçons sur Canal+. Mais l'effet Coupe du Monde va-t-il pour autant durer? Le regard sur le foot version fille a-t-il vraiment changé? Ou bien le soufflet va-t-il retomber tout de suite? Ce sera notre dernier débat en fin d'émission. Avec nous ce soir, Aurélie Monta-Rivet, qui est donc présidente de Sociter, maison de conseil aux dirigeants en leadership durable et maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
Franck Dodieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être là. Alerte au feu, donc l'Amazonie brûle et toute la planète s'échauffe. 2500 départs de feu en quelques jours et voilà que tout cela déclenche depuis ce matin une crise internationale à la veille du G7. Tout le monde semble se réveiller. Emmanuel Macron accuse Jair Bolsonaro de mensonge sur le climat. Il refuse de signer du coup le traité de libre-échange Mercosur. Il se passe enfin quelque chose sur ce sujet-là, Michel Taub.
J'ai envie de dire oui, c'est vrai que la planète brûle. Emmanuel Macron avait fait un tweet hier qui en fait était emprunté à ce que Jacques Chirac avait dit en son temps, en disant la planète brûle et on regarde
ailleurs.
Et la réalité, c'est qu'on continue à regarder ailleurs. Sauf que elle brûle beaucoup plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et qu'effectivement, la situation climatique, on le voit tous les jours. On le voit en France, on le voit au Brésil avec les incendies. Au Brésil, dans l'Amazonie, on le voit en Alaska où il a fait 35 degrés au mois de juin. 35 degrés en Alaska, ce qui est...
C'est où qu'on a aussi enterré un glacier? En Sibérie ou
dans le Groenland?
En Islande,
effectivement. Donc effectivement la planète brûle vraiment et on le sent, on commence à sentir. Donc effectivement, j'ai envie de dire avant tout, c'est que l'opinion internationale est à la recherche, c'est dramatique ce que je dis, mais d'événements tragiques qui permettraient de contraindre nos politiques, les grandes entreprises, à vraiment mettre le paquet dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Il faut en passer par
des engagements ont été pris et il faut les saluer. L'accord de Paris, peut-être après-demain au G7, il y aura peut-être des engagements concrets, mais ils ne sont pas à la hauteur de la situation dramatique. Donc, on cherche tous des opportunités de contraindre nos politiques à aller plus loin. Et ce qui se passe en Amazonie, effectivement, ça ne concerne pas que les Brésiliens. Parce que l'Amazonie, c'est un des poumons de notre planète et c'est peut-être pour ça qu'il y a une telle réaction au niveau international. Après, il y a d'autres raisons plus politiques, mais on en reparlera.
Ça, on va en parler. On a une bonne demi-heure devant nous pour parler de ce sujet. Aurélie Monta-Rivet.
Moi, je crois qu'on a quand même, on est face à un nouvel ordre international. Alors, on pourrait dire un nouveau désordre international. Mais si on est un peu plus positif, je pense qu'on a d'une certaine manière un peu de chance que ce G7 se passe en France. Pourquoi? Parce que la France a toujours été le premier promoteur du multilatéralisme et un pionnier, comme vous le disiez, dans la défense du climat et dans la lutte contre le changement climatique avec les accords de Paris, la COP21. Et donc, si on est un peu plus optimiste, moi, je dirais qu'il y a une forme de leadership français aujourd'hui pour inventer un nouveau modèle, ce que j'appelle une diplomatie nouvelle génération, une diplomatie collaborative entre le privé et le public. On l'a vu aujourd'hui à l'Élysée. C'est assez inédit qu'un président de la République reçoive pendant une journée entière la société civile. Il y a eu toute une série d'initiatives. On est dans une diplomatie,
pour moi, assez... Ça n'a pas été facile à arriver,
certaines associations ont presque quasiment boycotté.
Mais je pense que le fait que des associations regrettent de ne pas être associées, ça veut dire qu'on attend quand même beaucoup de ce G7 et que ça va être un G7 historique et qu'il passera par des coalitions publiques-privées, par une diplomatie collaborative, parce que les Nations Unies ne peuvent pas réussir seules les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 dont fait partie le climat. Et à l'inverse, je crois qu'on a des patrons du privé qui se rendent compte qu'il est aujourd'hui nécessaire de s'engager, que c'est plus simplement un sujet de communication, c'est un sujet de performance aussi pour eux, parce que c'est une demande des citoyens, c'est une demande des salariés, c'est une demande aussi de toute la population mondiale, et donc il y a une vraie pression positive de l'opinion sur ces sujets.
Franck Dodieu et puis après Michel Thom.
Moi je ne crois pas une seule seconde que c'est on va arriver enfin à rétablir le multilatéralisme des années 90. Je crois que depuis la crise, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit, et l'opinion publique aussi d'ailleurs je crois, c'est ça qui est nouveau dans cette histoire du G7 de Biarritz, c'est que l'opinion publique s'aperçoit que le multilatéralisme est mort. Tout simplement on se dit, il faut l'unanimité, et c'est tout à fait normal, les pays sont souverains, ils ont le droit aussi d'apposer leur veto et de dire non. Dans la mesure où il faut l'unanimité entre des pays qui n'ont pas des intérêts qui sont convergents, eh bien on arrive à des déclarations finales qui sont doucereuses.
Ça, on est bien d'accord, il n'y aura pas d'unanimité à la fin. Mais est-ce qu'au moins, quand on voit ce drame-là, le drame de la forêt qui brûle, au moins un sursaut.
Très concrètement, dans un précédent G7, Jacques Chirac, conseillé par Philippe de Stoblasie, avait obtenu, et seule la France finalement l'avait tenu, ou quasiment que la France, une taxation sur les billets d'avion pour financer l'aide de développement. Ensuite, Nicolas Sarkozy avait obtenu un engagement plus important sur une taxation très partielle des transactions financières, qui le tout a permis de libérer 1,2 milliard d'euros chaque année. Si on y ajoute le milliard qu'ont promis aujourd'hui les grandes entreprises qui participent au G7.
Initiative sur la croissance inclusive,
exactement. One Tech Lab. Mais tout ça, c'est très bien, c'est super, mais ça ne suffit pas pour répondre à la crise climatique face à laquelle on fait face. Donc c'est bien, mais il faut faire beaucoup plus.
On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de ce débat, juste après le rappel de l'info, 20h10, Armel Balogog.
L'association Innocence en danger espère que la réalité fera surface. Sa présidente, Omaïra Sellier, se félicite sur France Info après l'ouverture d'une enquête préliminaire en France sur l'affaire Epstein. Le parquet de Paris enquête donc sur des viols et agressions sexuelles présumées, notamment sur des mineurs. Le financier Jeffrey Epstein était poursuivi pour trafic sexuel. Il a pu avoir des complices français. Lui s'est suicidé en détention il y a 15 jours. Son corps sera dégagé ce soir. Un spéléologue retrouvé mort dans un gouffre du Lot. Il faisait de la plongée avec 2 autres personnes. On ne connaît pas encore les causes précises de son décès. L'Allemagne ne s'opposera pas à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce n'est pas la réponse appropriée, selon elle. Angela Merkel ne rejoindra donc pas Emmanuel Macron dans son engagement. Le président français a fait cette promesse. Si le Brésil ne fait rien pour sauver l'Amazonie, Emmanuel Macron accuse Jair Bolsonaro d'avoir menti sur ses engagements. Il reproche à son homologue brésilien notamment son inaction contre les incendies qui ravage cette forêt. Emmanuel Macron qui soutient un maire breton dans ses intentions, déclaration du président dans une interview à Combini. Il parle de Daniel Cueff, le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine. L'élu comparaissait hier devant le tribunal administratif. Il a défendu l'un de ses arrêtés municipaux. Il interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 150 mètres des habitations. Mais la préfecture de son département le conteste.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Aurélie Motarivet, la présidente de Sociter, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. On évoquait ce G7 qui va évidemment tourner autour du climat, du coup, vu la situation en Amazonie et cette passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron qui du coup dit qu'il refuse de signer ce traité Mercosur, traité de libre-échange, traité qui est le symbole du libre-échange mondialisé, contesté de toutes parts. Écoutez par exemple Yannick Jadot, le leader d'Europe Écologie Les Verts depuis Toulouse, où se tiennent les universités d'été de son parti.
Il est plus que temps de renoncer au Mercosur. C'est quand même pas nouveau que Bolsonaro ravage sa forêt, vend son pays à l'agro-business et met en danger non seulement les paysans au Brésil, mais évidemment les paysans en Europe. Mais maintenant, il faut agir beaucoup plus vite pour l'Amazonie. Moi, ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est d'imposer un embargo sur le soja transgénique brésilien pour obliger Bolsonaro à mettre tout en œuvre pour éteindre les feux de forêt.
Alors, embargo sur le soja transgénique, dit Yannick Jadot, pour faire pression encore plus sur Jair Bolsonaro, parce qu'effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forêt, on la brûle aussi, c'est de la déforestation dans le but d'agrandir les espaces de culture pour le grand marché mondial. C'est une bonne idée selon vous ou pas déjà cet embargo OGM, Franck Dedieu ?
Bah oui, moi absolument, c'est une bonne idée, mais qui globalement se pose autour de cette question. On a parlé de l'opinion publique, l'idée que c'est ce G7 qui est quand même le symbole de la mondialisation, du transport, du libre-échange, eh bien, ce système-là est un système qui n'est pas compatible, il faut le dire, c'est un problème systémique. Ce n'est pas compatible avec l'écologie, avec la préservation de la planète. Tout simplement, se pose une question en ces termes, c'est de se dire, au fond, comment raccourcir les distances ? Est-ce que c'est le retour du localisme ? Et au fond, on peut se demander aussi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'était déjà dans l'histoire, dans l'idée d'Emmanuel Macron de tenir tête et de renoncer à la signature de ce Mercosur. Alors là, oui, on peut se demander pourquoi il fait ça.
Pourquoi aujourd'hui ? Oui, j'aimerais bien que vous me le disiez, surtout quand l'Allemagne lui répond que ce n'est pas du tout le bon moment, ce n'est pas la réponse appropriée, dit Berlin ce soir.
Je vais quand même faire un peu profession de mon ignorance, comme disait Montaigne. Je sais pas trop. Ouais. J'ai plusieurs hypothèses. On peut se dire, il y a peut-être un techno qui lui a dit, vous savez, en regardant les modèles, on vous a dit que ça allait augmenter le PIB, ça allait augmenter la croissance. Pas tant que ça. Il y a aussi l'hypothèse politique en disant, regardez, le CETA, ça a quand même produit au pied des permanences LREM pas mal de fumier. Ben là, vous allez avoir une tonne de purin.
Donc vous avez une bonne raison de...
Et il a peut-être aussi
De dire non.
Comment ?
Une bonne raison du
voilà,
coup de
dire non. Et puis, j'ai envie de vous dire que peut-être que l'hypothèse qui tient la corde, c'est celle un peu à la western, c'est-à-dire il a été peut-être vexé. Il y a eu, entre Bolsonaro et Macron, une vraie passe d'armes qui révèle des visions différentes, qui révèle aussi, bien sûr, une opportunité.
On le savait, qu'ils n'avaient pas la même vision du monde.
Sauf que vous savez que, justement, c'est la question du G7. On se dit, on est en train de réunir des gens qui n'ont pas la même vision du monde. Oui, c'est vrai. Ça serait... Mais il a quand même des alliés, peut-on le
d'ailleurs, Bolsonaro dit que le fait qu'on en parle au G7, c'est embêtant parce que c'est un relan colonialiste, impérialiste.
Oui, c'est exactement là-dessus que porte le a priori le problème. Mais si vous voulez, le G7, on est en train de mettre des gens qui n'ont pas des intérêts, qui ont des intérêts véritablement convergents. Donc il est normal qu'au bout d'un moment, eh bien, ça se déchire. Et au fond, je crois que ce petit jeu de l'entente cordiale, alors que se dessine... C'est peut-être l'occasion, ce G7, on en parlera, ma voisine est bien placée pour en parler. C'est le bilatéralisme qui est en train de prendre le
dessus. J'aimerais que vous lui laissiez un petit peu la parole, Franck. Non, mais je comprends, vous avez énormément de choses à dire. En plus, l'actualité du jour sur ce sujet est très riche. Aurélie Motarivé.
Je crois qu'effectivement, ce sont, vous le disiez, des visions du monde très différentes. On voit qu'on a un contexte de tentation de repli, de scepticisme par rapport au climat, de scepticisme par rapport au multilatéralisme. Donc, il y a vraiment des visions très différentes. Et je crois qu'Emmanuel Macron, en faisant ça, c'est un levier de négociation, effectivement, et une façon d'asseoir son autorité aussi et de mettre un peu d'ordre avant l'ouverture de ce G7 demain et de cette ouverture officielle.
Finalement, c'est une aubaine, cet incendie dramatique.
C'est pas du tout une aubaine. Je pense que
pour
c'est
lui,
une façon,
il veut dire, politiquement.
Pas du tout. Je pense que c'est l'occasion de réaffirmer très fortement la volonté de lutter contre le réchauffement climatique et de montrer aussi la nécessité aujourd'hui, je crois que c'est ça l'urgence au-delà de l'urgence climatique, d'aligner les intérêts entre la société civile, le secteur privé et le monde diplomatique pour aller tous dans le même sens. Parce que les moins 2 degrés, comme tous les objectifs du développement durable, on n'y arrivera que si tout le monde se met autour de la table. Le politique, son rôle, c'est de fixer le cap. Et pour moi, les entreprises ont les moyens de financer ça et ont les moyens technologiques d'y répondre.
Les écologistes, vous répondrez, et les ONG, que ce G7, c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais, et que il y a un côté pompier pyromane, Michel Taub.
C'est clair que jamais un G7 n'a changé quelque chose au sort de l'humanité. C'est certain, on en attend beaucoup trop de G7, mais il est quand même utile. Et c'est vrai qu'il est d'autant plus utile qu'on a aujourd'hui un Donald Trump qui essaie de torpiller par tous les moyens toute forme de multilatéralisme. Ce matin, je signais un édito dans mon magazine, le triomphe du multibilatéralisme.
Et c'est ça,
Biarritz, rencontres bilatérales. Et un peu mieux, bonne idée d'Emmanuel Macron, c'est de proposer des coalitions, des alliances thématiques entre pays qui se retrouvent. En fait, Biarritz, c'est pas un G7, c'est un G25. puisqu'il y a 25 chefs d'État et gouvernement qui viennent du monde entier. Il y a le Premier ministre indien, il y a le président sud-africain, beaucoup de chefs d'État africains, parce que quand même, il faut le rappeler, le thème initialement du G7, c'est la lutte contre les inégalités dans le monde, et notamment les inégalités entre les hommes et les femmes, qui était censé être un des thèmes principaux du G7. Là, on s'en éloigne, évidemment. Mais moi, je voudrais souligner, il y a un risque dans ce que fait Emmanuel Macron. C'est qu'en s'en prenant à Bolsonaro, moi, ma crainte, c'est que Bolsonaro soit le cheval de Troie de Donald Trump, qui demain matin, à Biarritz, s'apprête à rencontrer Boris Johnson. Oui, et moi, ma crainte, c'est qu'en réaction à la sortie assez fulgurante d'Emmanuel Macron, et qui est courageuse, et qu'il faut saluer, c'est que ça provoque une réaction systémique de la part du président américain, avec le soutien de son ami brésilien et de Boris Johnson, pour torpiller davantage le G7 qui s'annonce sous de bons auspices. Mais quand même, je pense qu'il y a des risques diplomatiques certains, et que sur l'Amazonie, il y a aussi des enjeux industriels très forts, évidemment. L'Amazonie, c'est pas que des enjeux agricoles, c'est des projets qu'a Bolsonaro avec des entreprises américaines de construire des autoroutes en plein dans l'Amazonie. Et donc moi, je crains qu'effectivement, cette histoire de l'Amazonie pose de gros problèmes diplomatiques qui vont bien au-delà d'un communiqué du président français.
Communiqué dont on va parler dans un instant. Franck Dedieu, je voyais que vous aviez... Non, vous vouliez pas. Je croyais que vous vouliez réagir, vous me faisiez des signes.
Mais juste pour dire qu'effectivement, il disait que le G7 n'a pas changé véritablement la vie des gens. Et c'est vrai qu'on peut même se dire que le G20, alors qu'on est plus nombreux, dans la mesure où il y a les fameux BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, bien entendu, eh bien à ce moment-là, et qu'ils s'organisaient autour de projets précis. Par exemple, la lutte contre les paradis fiscaux, la régulation de la finance. Certes, tout n'a pas été fait, mais les avancées dans le format G20, dans la mesure où c'était plus proche, je dirais, du réel, a apporté beaucoup plus que le G7, qui ne sera finalement qu'une forme de bilatéralisme. Juste pour terminer, attention de ne pas faire l'image de la coalition des gentils et la coalition des méchants, les ouverts contre les fermés. Oui. Non, en fait, on va avoir des rencontres bilatérales, pardon de me répéter, qui vont avancer sur des sujets, être à l'arrêt sur d'autres, et n'ayons pas cette vision un peu trop manichéenne, les gentils,
justement,
les méchants, parce
qu'on poursuive ce débat tout à l'heure.
Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts, disait De Gaulle, et il ne faut pas l'oublier en 2019.
La question, c'est d'aligner ses intérêts.
On se retrouve juste après le rappel de l'info à 20h20 pour poursuivre ce débat passionnant avec Armel Balogog.
Après la longue attente et les cris de joie, ils vont enfin toucher terre. Les 350 rescapés de l'Ocean Viking sont en route vers Malte. Transportés par des vedettes militaires, ils seront ensuite répartis entre 6 pays européens. La France accueillera 150 personnes. Un homme mis en examen pour tentative de meurtre, sa compagne pour complicité, ils ont été écroués. L'homme a agressé l'amant de sa compagne et tous les deux seront aussi placés en garde à vue pour un accident dans le Pas-de-Calais. Leur fillette de 18 mois en est morte. Emmanuel Macron appelle à trouver la bonne gouvernance de l'Amazonie dans une interview aux médias en ligne Combini. Il faut associer les ONG, les peuples autochtones. Selon lui, le président dénonce l'écocide dans la forêt amazonienne ravagée par des incendies et la déforestation industrialisée. Il veut lever des financements pour la reboiser le plus vite possible. Plus tôt aujourd'hui, Emmanuel Macron a attaqué son homologue brésilien, dénonçant ses mensonges et son inaction pour la forêt et le climat. L'Amazonie figure parmi les priorités du G7 ce week-end. Le président turc va à Moscou mardi prochain. Recep Tayyip Erdogan rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine. Ils vont parler notamment de ce convoi militaire turc pris pour cible par les forces du régime syrien en allant vers Idlib. Cinquième journée de Ligue 2. En ce moment, 8 matchs de football sont en cours et quelques scores provisoires. Lorient mène Le Mans d'un but à 0 et Le Havre mène aussi Grenoble 1-0.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Aurélie Motarivé de Sociter, Franck de Dieu de Marianne et Michel Top d'Opinion Internationale. On poursuit notre débat sur ce G7 et l'Amazonie qui brûle et cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Bolsonaro aujourd'hui. Je vous lis à l'instant le communiqué publié par le site, par l'Élysée. Notre maison brûle littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. Le chef de l'État parle d'écocide en train de se développer à travers l'Amazonie et pas seulement au Brésil. Et il propose trois mesures très concrètes dans le cadre du G7. Je vous les livre ainsi. Mobiliser les membres du G7 et au-delà pour lever des financements pour pouvoir reboiser le plus vite possible. Développer des mécanismes de prévention beaucoup plus puissants de ces incendies. Et troisième piste, trouver une forme de bonne gouvernance. Il faut associer les ONG, les peuples autochtones, beaucoup plus qu'on ne le fait, et stopper le processus de déforestation industrialisée. Est-ce que sur ces trois points, donc de là, une levée de fonds, des mécanismes de prévention d'incendies plus puissants et une bonne gouvernance et stopper la déforestation industrialisée, vous pensez qu'il peut y avoir accord des participants au G7? Je vais peut-être commencer par Aurélie.
Je crois que c'est un assez bon résumé de la situation et du nouvel ordre économique mondial aujourd'hui et du nouvel ordre international. Parce qu'on voit bien que dans cette situation, les pouvoirs publics fixent le cap. Encore une fois, on a ce cap-là et cet objectif à atteindre. Et sans le secteur privé, sans les moyens du secteur privé et la mobilisation de la société civile, et c'est évidemment très important d'associer les communautés locales, sans toutes les parties prenantes, on n'y arrivera pas. Mmh. Donc je pense que c'est un très bon résumé de l'équation qu'on a devant nous dans ce nouvel ordre mondial.
Franck de Dieu.
Oui, Marianne. Bien sûr, ma voisine a tout à fait raison, mais pardon de le dire, mais ça bute quand même sur la souveraineté d'un État qui s'appelle le Brésil, avec une légitimité démocratique.
Alors, il ne s'agit pas qu'évoquait Michel Taub.
Voilà, mais il ne s'agit pas de prendre du tout la défense, parce que moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait, oui, mais vous allez voir, Bolsonaro, en fait, il est plus écolo qu'on le pense, et le Mercosur, on a quand même ceinture et bretelles, vous allez voir, c'est pas si mal. Bon, là, aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que, évidemment, il a menti, parce que la maison brûle, et effectivement, il a l'impression d'avoir les bras un peu ballants. Non, il y a peut-être une idée qui, moi, m'intéresse dans ce triptyque-là. Comme je disais, gouvernance, il y a quand même un problème de souveraineté. C'est celui de la levée des fonds. Et là, effectivement, on peut se dire que si les États décident, et on va peut-être y revenir sur les inégalités sociales, de se mobiliser pour lever des fonds, elles ont aujourd'hui les moyens. Les nations ont aujourd'hui les moyens. Mmh. Et la leçon de l'histoire, c'est que finalement, ça sera du recours des nations. Ça sera pas le G7 qui va créer un fonds G7 pour aider l'Amazonie. Ça sera les nations, je termine, qui auront les moyens, compte tenu des taux d'intérêt qui sont très bas. Mmh. Ils sont même négatifs. Si j'écoute France Info, on le répète, et on le dit souvent, ils sont négatifs. Je ne suis pas contre par principe. Je suis réaliste.
Je pense que c'est une vision.
Je m'aperçois à défaut, je le regrette. Mais il faut être un petit peu réaliste. On ne peut pas avoir une vision totalement irénique des choses en disant parce que c'est bienveillant, que c'est sympa, le multilatéralisme, ça ne marche pas.
Pour
c'est
aller
pas
peut-être dans le sens de ce que vous dites, quand on voit que courageusement, peut-être, en tout cas, c'était votre sentiment, Michel Taub, Emmanuel Macron se lève contre le Mercosur, 2 heures après, on a un communiqué de Berlin qui nous dit que ce n'est pas la bonne méthode.
Non, alors, deux choses. D'abord, Bolsonaro est souverain au Brésil. Effectivement, il est souverain. Et donc, à ce titre, il peut y avoir toutes les coalitions du monde pour sauver l'Amazonie qui brûle. Si le chef de l'État brésilien dit non, c'est non. Et nous ferions la même chose si arrivait un drame tragique dans notre pays et que la communauté internationale voulait se mobiliser contre la volonté de nos représentants.
De nos dirigeants,
donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je pense que Emmanuel Macron a saisi là une opportunité de déplacer peut-être, ou de donner peut-être au G7, un vrai sujet qui intéresse l'opinion publique internationale.
Peut-être plus que la réduction des inégalités dans le monde,
parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même un manque de visibilité sur quelles
sont les
intentions.
Autant on peut les trouver légitimes sur ce sujet-là, autant que sur la réduction des inégalités, tous les opposants disaient, enfin vous êtes gentils, c'est vous qui les avez créés.
Voilà.
En gros,
c'était ça
le message.
Et pourtant, Dieu sait que pour ma part, je milite pour une diplomatie féministe, parce que c'était un des enjeux de ce G7 et de la ministre Marlène Schiappa, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui intéresse l'opinion publique. Là, sur l'Amazonie, il a flairer un sujet médiatique très fort. Mais encore une fois, c'est à haut risque, parce que Bolsonaro ne fait pas partie du G7, parce que Trump peut répliquer
dès demain, et donc c'est
pas gagné, et peut-être que les autres participants ne voudront pas qu'on en parle autant que voudrait le président.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que finalement, quand on discute avec les spécialistes, ils nous expliquent que si cette forêt elle brûle, c'est aussi à cause de la sécheresse. La sécheresse est une conséquence du dérèglement climatique, et donc c'est un peu facile peut-être, non pas que je veuille défendre Jair Bolsonaro, mais de dire que c'est la faute de Bolsonaro si l'Amazonie brûle. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. On a aussi peut-être notre part de responsabilité, non, Aurélia Motarivé?
Mais je crois qu'effectivement, sur tous les sujets de développement durable qui sont bien résumés dans l'agenda universel des Nations Unies avec les fameux objectifs du développement durable et 17, dont celui sur le climat, d'ici 2030, d'ici 2030 à régler, je crois qu'on n'y arrivera évidemment pas. C'est une mobilisation de chacun d'entre nous, des citoyens. encore une fois, des entreprises. Je vais prendre un exemple. Vous parliez tout à l'heure du multilatéralisme qui est mort. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le multilatéralisme doit être revu, il doit être révisé, il doit être réadapté. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et il doit être ouvert. Je pense que la diplomatie, elle sera collaborative, elle sera ouverte au privé, à la société civile, ou elle ne sera plus. Et à l'inverse, je pense que l'entreprise, aujourd'hui, elle sera engagée ou elle ne sera plus. Et donc, je crois qu'on a une opportunité assez extraordinaire. Si on prend l'exemple des accords de Paris, vous vous souvenez, quand l'administration américaine décide de sortir des accords de Paris, on a vu qu'il y avait une formidable mobilisation des entreprises américaines et de la société américaine et des maires des grandes villes.
Des États comme la Californie.
Exactement. Donc, je crois qu'il faut être assez optimiste. Je pense que c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. On est dans un nouveau modèle, on est à un tournant et il faut inventer un nouveau modèle.
Il reste 10 secondes, Franck de Dieu.
Sur la société civile, je suis assez partagé parce que d'un autre côté, c'est vrai, vous avez raison, on sent que l'opinion publique veut des corps intermédiaires, des ONG, des élus, etc. Mais des élus intermédiaires de villes, mais j'ai l'impression aussi que l'opinion publique demande à le retour des États dans leur dimension souveraine également. Donc, je suis pas totalement persuadé de ça. Je crois qu'il y a un double tiraillement presque inverse.
Bon, écoutez, je pense qu'on aura largement l'occasion de revenir dans les informés sur les conséquences de ce G7 lundi, bien sûr. Et là, je vous propose d'autres sujets de débat juste après les infos et la météo.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
On retrouve Elodie Calac pour les prévisions.
Soleil et chaleur pour le week-end. Les températures poursuivront leur hausse. Demain, pas moins de 27 degrés à Brest, 29 à Strasbourg et Biarritz, 30 à Lille, Deauville et Toulon, 31 à Paris, à Grenoble, 35 degrés à Nantes, Limoges et Toulouse, 36 degrés à Bordeaux. Tout ça sous le soleil. À peine un petit voile nuageux sur les régions du Nord. Quelques nuages bas vers le Languedoc-Roussillon le matin, puis vers le Finistère et le Pays Basque l'après-midi. Des Alpes à la Provence et en Corse, là on gardera un temps instable. Ça tournera à l'orage. Dimanche, peu de changements, toujours du soleil, un peu voilé près de l'océan, encore quelques averses orageuses du côté des Alpes et de la Corse. Et pour les températures, une moyenne de 32 degrés au nord comme au sud.
Merci Elodie Calac, à tout à l'heure. Belle soirée sur France Info. Les informés de retour dans 3 minutes, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Toute l'info, Emmanuel Langlois.
Une enquête ouverte en France dans l'affaire Epstein pour des viols et agressions sexuelles sur des mineurs et des majeurs, ainsi que pour associations de malfaiteurs. Le milliardaire américain s'est donné la mort dans sa cellule à New York au début du mois. Il était incarcéré parce que suspecté d'avoir organisé un véritable trafic sexuel et de pédophilie aux États-Unis, et donc vraisemblablement entre les États-Unis et la France. Des centaines de jeunes femmes étaient concernées, dont certaines venaient de l'Hexagone. Clémentine Vergniaud.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que des associations avaient fait pression pour demander l'ouverture d'une enquête en France, Innocence en danger notamment, qui dit avoir reçu une dizaine de témoignages. Des signalements ont été transmis au parquet de Paris dès le mois de juillet. Ils concernent à la fois des Françaises qui ont été victimes du trafic aux États-Unis, mais aussi des faits qui se sont déroulés en France. L'enquête ouverte par le parquet se penchera donc sur toutes ces victimes potentielles. Jeffrey Epstein avait des liens avec la France, il possédait notamment plusieurs biens immobiliers dans l'Hexagone, dont un hôtel particulier à Paris. Les enquêteurs rechercheront donc aussi d'éventuelles complicités dont le milliardaire aurait pu bénéficier en France. C'est l'Office central de répression des violences faites aux personnes qui est chargé des investigations.
Clémentine Vergniaud, après plus de 10 jours d'attente, un accord a été trouvé pour faire débarquer à Malte les 356 migrants africains à bord du navire de l'ONG Ocean Viking. Ils seront ensuite répartis dans 6 pays de l'Union européenne. La France qui va en accueillir 150, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et enfin la Roumanie. Des milliers de manifestants ont formé ce soir une chaîne humaine qui serpentait à travers les rues de Hong Kong 30 ans jour pour jour après une première chaîne humaine qui avait été organisée par les pays baltes pour recouvrer leur indépendance. Eh bien, les manifestants pro-démocratie de Hong Kong les ont imités. Au moins 5 jeunes de 13 à 22 ans ont péri hier soir à Alger dans une bousculade. Ça s'est passé à l'entrée d'un concert du rappeur Soul King. Une dizaine de blessés restent hospitalisés dans un état critique ce soir. Le rappeur lui affirme n'avoir pas eu connaissance du drame avant ou durant le concert qui s'est donc déroulé tout à fait normalement. De Mourmansk vers l'extrême-orient, ans, la première centrale nucléaire flottante au monde développée par la Russie a commencé son périple de 5000 km dans l'Arctique. Il devrait durer entre 4 et 6 semaines. Les écologistes craignent les conséquences pour cette région déjà très fragile. C'est la réponse de Pékin à Washington dans la guerre commerciale qui les oppose. La Chine annonce de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis en représailles à l'instauration prochaine par les Américains de taxes douanières supplémentaires sur les produits chinois. Et puis il a remporté la bagatelle de 14 étapes du Tour de France à 31 ans. Marcel Kittel met un terme à sa carrière. Le cycliste allemand, qui s'était également imposé à 4 reprises sur le Giro, explique qu'il ne veut plus se torturer sur un vélo.
C'était Emmanuel Langlois, il est 20h33.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Toujours ce soir avec Franck Dedieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Aurélie Motta, arrivée présidente de Sociter, qui est une maison de conseil aux dirigeants en leadership durable et qui est maître de conférences à Sciences Po, et Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Évoquons à présent, si vous le voulez bien, cette annonce du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Christophe Castaner, à propos de la politique d'accueil des migrants en Méditerranée. Notre pays, la France, va accueillir 150 des 350 migrants actuellement à bord du bateau humanitaire Ocean Viking. 3 jours après le débarquement en Italie d'un autre navire humanitaire, l'Open Arms, dont la France va accueillir là 40 migrants. Michael Neumann du Centre de réflexion de l'action et des savoirs humanitaires chez MSF, Médecins sans frontières, est ravi de cette solution parce que les conditions à bord étaient intenables.
C'est un soulagement, c'était devenu compliqué, précaire. On n'a pas des rations alimentaires pendant beaucoup de semaines supplémentaires. Et puis cette attente, le soleil qui régnait à bord était favorable à l'émergence de tensions ici et là. Donc il était plus que temps qu'une solution soit trouvée.
Voilà, une solution trouvée donc, partage entre 6 pays et la France qui prend une grande part, hein, 150 des 356 migrants réfugiés sur le bateau. Comment vous interprétez ce geste de générosité qu'on pourrait qualifier un peu soudaine? On est à la veille du G7, est-ce qu'on peut y voir encore un signe, Aurélie?
Je crois que c'est pas une question de générosité, c'est une question éminemment humaine d'abord.
Oui, mais il y a eu d'autres cas où on a mis plus de temps, où on en a moins pris, si je puis dire.
Après, là où vous avez raison, c'est que je pense que personne n'aurait compris qu'à la veille d'un G7 consacré à la lutte contre les inégalités, ce ne soit pas le cas. Mais je crois que c'est le vrai sujet et la vraie question de fond, c'est pas celle-ci. La question de fond, c'est comment on fait en sorte que ce phénomène ne continue pas à augmenter et comment on fait pour faire ça. Il faut réussir à traiter les objectifs qu'on a devant nous en termes de développement durable, parce que s'il n'y a pas d'accès à l'eau, s'il n'y a pas d'accès à l'éducation, s'il n'y a pas d'accès...
S'il n'y a pas d'espoir pour vivre dans ce
de façon générale, si on ne réduit pas la pauvreté et en fait tout ce qui est résumé par l'agenda Nations Unies, encore une fois, si on n'arrive pas à traiter ces sujets, eh bien ce phénomène va s'aggraver. Et donc ça pose la question, et on revient un peu d'une certaine manière au G7, comment on aborde ces sujets. Et moi je crois beaucoup à des coalitions public-privé, agile.
Ça, je crois qu'on l'a bien compris parce que vous le répétez.
Mais vraiment, mais parce que je pense qu'il faut être agile, et je le répète parce que je crois que c'est pas parfait, c'est un modèle transitoire vers un autre
mais
modèle.
C'est le seul que vous...
Et c'est le seul que je vois aujourd'hui, et à mon avis, c'est extrêmement pragmatique.
Michel Taub. Cet accès de générosité ne correspond pas, j'ai envie de dire, malheureusement, d'un point de vue humain et politiquement, c'est plus compliqué à la politique de la France depuis quelques années. La France n'a pas été, et de loin, le pays le plus solidaire avec la Grèce en son temps et avec l'Italie ces dernières années. C'est l'Allemagne qui accueille le plus de migrants. J'ai retrouvé les chiffres en 2017, ramenés par habitant, parce que ce n'est pas tellement le nombre de réfugiés qu'on a accueillis, mais l'Allemagne a accueilli en 2017 4000 migrants pour 1 million d'habitants. La France, c'est à peine 605 habitants, c'est-à-dire 4 ou 5 fois moins que les
Allemands. Donc il vaut peut-être se réjouir qu'on répare un peu, on remonte dans le dos.
Oui, mais c'est très ponctuel. La France n'a pas été au rendez-vous de la solidarité avec l'Italie, et c'est la raison principale. Mais c'est vraiment la raison principale pour laquelle les Italiens ont voté il y a 18 mois pour une coalition complètement
absurde. Parce qu'ils se sont sentus abandonnés sur cette question-là.
Exactement, la solidarité n'a pas été là. La solidarité, c'est pas à la veille du G7, c'est depuis des années qu'elle aurait dû être au rendez-vous et qu'il faudrait la bâtir le plus rapidement possible pour éviter que l'extrême droite n'arrive au pouvoir dans d'autres pays comme elle le fait petit à petit en Europe.
Vous êtes d'accord, Franck, de Dieu, de Marianne?
Oui, la solidarité, bien sûr, on parle quand même de 150 50 migrants. Je veux dire, ça reste quand même des chiffres extrêmement faibles quand
Michel Taube
parlait de 4000 migrants pour 1 million d'habitants. Si vous voulez, là, moi, je pense que c'est pas l'option généreuse qui a été choisie, c'est l'option en fait réelle politique, parce que vous avez trois lignes qui se dessinent. La première ligne, la ligne no border, en gros, de l'Allemagne, un temps, parce qu'elle a bien sûr renoncé à cette ouverture no très border, large. Donc, le no border, c'est-à-dire pratiquement le sans-frontiérisme, qui là n'est pas réaliste. Vous avez aussi, à l'inverse, le non massif qui quand même pose un problème d'humanité, pardon de dire.
Le non massif italien, c'est embêtant, mais le no border, ça a fragilisé Angela Merkel.
Exactement. Donc vous apercevez qu'au fond, la réelle politique.
Et c'est un naissant député d'extrême droite au Bundestag en Allemagne.
Enfin, voilà. Donc vous voyez, vous apercevez que la réelle politique, c'est quand même une politique qui n'est pas non plus quand même. On parle de 150. Bien sûr,
mais
évidemment.
Il y en aura peut-être encore. Voilà, les bateaux. Malheureusement, les bateaux vont repartir en mer.
La réelle politique, c'est peut-être.
C'est
peut-être un peu cela, et là pour le coup je rejoins mes collègues, c'est-à-dire qu'effectivement tout cela doit s'organiser avec l'Europe. C'est-à-dire que vous ne pouvez, l'Europe a fait preuve d'un cynisme.
Pas que les pays du bassin méditerranéen, pas que les côtiers,
Sûr, tout cela doit s'organiser, et l'Europe a fait quand même preuve d'un cynisme absolu, d'un cynisme économique et d'un cynisme humain à l'égard de l'Italie. Enfin, je veux dire, c'est absolument anormal, et elle a recueilli,
les dangers
qu'elle a semés,
Aurélie, mot arrivé.
Mais on sera entre 9 et 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc le sujet, c'est bien d'être dans l'émotion, et évidemment c'est très important d'agir sur des drames humains comme celui-ci. Mais pour moi, la question, elle est bien plus profonde, et vous allez dire que je radote, mais c'est vraiment de comment on traite, on prévient ça. En insufflant un nouveau modèle économique qui est plus inclusif, qui n'a pas pour seul objectif d'être sur le profit, mais qui crée du progrès social.
Oui. Michel Taube, en 10 secondes, parce qu'après c'est
plus bref échéance, il faut aussi régler le problème de l'anarchie qui règne en Libye, parce que là, les migrants qui viennent sur nos côtes européennes, nord-méditerranéennes, viennent de Libye, et c'est l'anarchie. Il y a deux forces qui s'opposent. Emmanuel Macron, qui a essayé trop seul de régler le problème l'année dernière à la Selle-Saint-Cloud, alors que les Italiens auraient pu nous aider largement. Commençons par régler ce problème à plus court terme, et ça facilitera l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont évidemment nécessaires.
Et l'Europe a un vrai rôle à jouer.
Eh bien voilà, on a fait à peu près le tour des sujets internationaux du jour. Je vous propose de parler un tout petit peu de politique française dans quelques instants, juste après l'info à 20h40, Armel Balogog.
Un barbecue de la colère près de Biarritz à la veille du G7. Les policiers dénoncent l'épuisement dans leur rang, l'accumulation des heures supplémentaires. Plus de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité dans la ville. Et à la veille du sommet, la tension monte. D'un coup, Emmanuel Macron à la manœuvre. Il espère que Washington signera la charte pour la biodiversité. Il dénonce aussi l'inaction du Brésil contre les incendies qui ravagent l'Amazonie. Plus de 2500 départs de feu en 48 heures. Conséquence, le président français s'oppose au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les Mercosur. Et les incendies en Amazonie dénoncés dans les rues. Aujourd'hui à Toulouse, Grenoble, Paris, Londres ou encore à Barcelone, les jeunes pour le climat veulent sauver ce poumon vert de la planète. L'enquête préliminaire ouverte en France sur l'affaire Epstein est nécessaire. L'association Enfants Bleus espère des poursuites pour les complices et les co-auteurs français du financier américain. Il est mort il y a une quinzaine de jours, et la justice enquête donc sur des viols et agressions sexuelles présumées, notamment sur des mineurs. L'incendie au zoo de la Palmyre ce matin est d'origine criminelle. Un ancien employé a été interpellé. Il a été licencié par le parc animalier charentais il y a 5 ans. Le parquet de La Rochelle ordonne une expertise psychiatrique.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
La présidente de Societer, Aurélie Motta-Arrivé, Franck De Dieu, directeur adjoint de Marianne, et Michel Taube, le fondateur du site Opinion Internationale, sont mes informés du jour. Parlons un peu de politique française, si vous en êtes d'accord à présent. Hier, on a parlé dans cette émission de la rentrée des écologistes et des insoumis. Aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste qui renoue avec son université d'été à La Rochelle, un peu dans l'indifférence, faut bien le dire. On est loin des années Jospin ou même des années Hollande. L'enjeu, évidemment, pour Olivier Faure, le premier secrétaire, c'est la survie de ce parti laminé, siphonné par Emmanuel Macron. De ce point de vue-là, selon vous, est-ce que les municipales seront décisives, Franck De Dieu?
Ah, totalement. Je pense que là, on voit il y a deux chemins, en fait. Je suis même pas sûr que le Parti Socialiste fêtera ses 100 ans avec le fameux congrès de Tours qui a donné naissance avec Léon Blum au Parti Socialiste, décembre 2020, c'est pas gagné. Pourquoi ? Parce qu'il y a les municipales en mars 2020. Et si vous voulez, je crois que vous avez deux options qui se profilent, radicalement différentes. Je dirais une option par le bas, c'est qu'en gros, le Parti Socialiste quand même conserve, parce qu'il y a une sorte de conservatisme électoral et municipal.
Ou en tout cas dans les municipales, d'attachement au maire.
Voilà, exactement.
C'est pas
exactement
forcément du conservatisme, mais c'est la prime un peu au sortant,
exactement,
quand on est content,
voilà,
s'il a bien géré
conserve
sa vie.
Conserve au niveau, je dirais, strictement électoral. Hein. Une sorte d'inertie politique. Effectivement, vous aurez encore un Parti Socialiste qui deviendra une forme de radical socialisme, en fait.
Avec des baronnies locales.
Avec un siècle après, finalement, c'est assez symbolique. Juste avant le congrès de Tours, le Parti Socialiste devient un Parti Radical Socialiste. Ça, c'est, si vous voulez, l'hypothèse par le bas. Et puis, il y a l'hypothèse par le haut, qui a été, évidemment, qui est un peu là, qui fait partie de la rhétorique fort, c'est de se dire, la division, c'est mortel pour la gauche, et il faudra trouver, parce que, bien que, disant, les présidentielles, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique, ça l'est un petit peu, et donc, cette division-là, l'argument est de dire, nous trouverons une personne capable de rassembler, de fédérer toute cette gauche.
On peut en douter, à l'heure actuelle, on peut en douter.
On peut en douter, mais c'est loin, vous savez, hein, 2020.
Aurélie Motte-Arrivée, est-ce que tout se joue si Anne Hidalgo conserve Paris, si le PS conserve aussi Nantes, quelques villes
Martine-Aubry
à Lille, par exemple?
Peut-être, mais moi je crois que ce qu'attendent les Français, il me semble, c'est un projet. C'est-à-dire que je crois que le PS a été disrupté, comme d'autres d'ailleurs partis traditionnels depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est le cas aussi chez les Républicains. La question, c'est quel est le programme, quelle est la proposition qui est faite aux Français. Là, on a la sensation que le PS est un héritage aujourd'hui, si on caricature un peu. Et donc, quel est le projet d'avenir qui est proposé? Comment on incarne? Comment on fédère? Parce qu'il y a plusieurs courants. Comment on agrège ce projet? Et puis, je crois que on l'a évoqué longuement précédemment, mais dans un contexte quand même d'ordre mondial très perturbé, où il faut réconcilier la fin du mois, la fin du monde, où il faut inventer un nouveau modèle de société, un nouveau projet citoyen, il me semble que c'est une opportunité pour le Parti Socialiste.
Donc vous êtes quand même optimiste, ou en tout cas pleine d'espoir.
Pas particulièrement pour le Parti Socialiste, pour l'ensemble des partis. Je pense qu'il y a en tout cas un besoin de réponse et d'une diversité dans l'offre politique.
Michel Taub, quel est votre regard? Parce qu'on imagine bien que pour conserver des mairies, il faudra refaire les alliances. Et on voit bien que Europe Écologie Les Verts ou Les Insoumis ont plutôt envie de leur passer devant, voire de les écraser, que de faire des alliances avec eux. Et en tout cas, pas derrière eux.
Absolument. Ceci dit, le Parti Socialiste est peut-être un peu moins mal placé qu'En Marche dans certaines villes, parce que le problème d'En Marche et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a quasiment aucune assise territoriale. Mmh. Et qu'effectivement, je pense que pour les socialistes comme pour les républicains, parce qu'ils ont quelques baronnies locales solidement implantées depuis des décennies, qui devraient peut-être pouvoir avoir des municipales un petit peu moins douloureuses que les élections européennes qui ont été absolument désastreuses
pour
eux.
Oui, mais parce qu'on sait que le scrutin des européennes, c'était aussi un scrutin qui était propice au vote sur l'étiquette et pas sur les personnes.
Oui, mais justement, le vote a été catastrophique. Il a été catastrophique. Donc, en fait, au municipal, qu'est-ce qui va se passer? Si certains maires socialistes sont élus ou réélus, c'est pas parce qu'ils sont socialistes. C'est parce qu'en fait, ce sont, encore une fois, des seigneurs locaux, des barons locaux qui sont très bien implantés localement et qui ont réussi à maintenir le leadership sur les alliances qui sont nécessaires au deuxième tour de l'élection
municipale. Mais justement, maintenir ce leadership, c'est
pas le point et la rose qui va les sauver.
Non,
c'est
ça,
pas
je suis d'accord.
Le point et la rose, et c'est pas la vision, c'est pas le projet socialiste qui va les sauver. À gauche, et d'ailleurs...
Mais parce est-ce qu'on vote pour un projet, d'ailleurs, quand on vote au municipal, pour un projet national?
Évidemment.
Ou est-ce qu'on vote plutôt pour savoir ce qu'on va faire du rond-point.
On vote pour un projet incarné.
Sauf peut-être sur certains sujets où les choses sont peut-être plus claires, notamment sur l'écologie. Parce qu'effectivement, les enjeux écologiques deviennent aujourd'hui très visibles au niveau mondial. On le voit avec l'Amazonie.
Mais on les voit
très
aussi
visibles au niveau national.
Bien sûr.
On l'a vu avec Nicolas Hulot. On le voit comment le gouvernement
a du mal.
Mais on
les voit aussi visibles dans la ville où on habite.
Au niveau territorial. Mmh. Et c'est pour ça, effectivement, je pense que Europe Écologie Les Verts, sans vouloir faire de parti pris partisan, est peut-être mieux placé pour offrir une offre visible au niveau local pour les prochaines municipales que le Point et la Rose et le Parti Socialiste. Donc effectivement, moi ce que je crains, c'est que les socialistes fêtent, comme l'a dit Franck Dedieu, le centenaire du Parti Socialiste en se disant on va peut-être devenir un club d'élus locaux comme l'est devenu le Parti Radical Socialiste depuis des décennies.
Donc peut-être tout dépendra de l'attitude des partenaires, parce que rarement maire socialiste ne dirige sa ville tout seul. Enfin, quand on regarde un peu les compositions des conseils municipaux, c'est souvent quand même des alliances qui justement sont derrière cette personnalité qui est socialiste, mais sur lequel on retrouve des écologistes, des communistes quand il y en reste, et des insoumis, enfin, qu'on n'appelait pas insoumis d'ailleurs il y a 6 ans, hein, mais qui sont devenus les insoumis entre-temps, avant c'était les partis de gauche. Et ces gens-là, s'ils suivent les consignes nationales, ils ne voudront pas faire alliance.
D'où, Franck de Dieu. D'où la volonté, l'appel de La République En Marche d'amener à eux des élus socialistes, ce qui a fait grand bruit. Je crois que si vous regardez cette université d'été, il n'y a pas de signe distinctif. Hein, il n'y a pas de part de marché, je dirais, idéologique du Parti Socialiste.
Ouais, de place quelque part sur l'échiquier, quoi, d'identité.
Il n'y a pas de mot fort. Là. On se dit, on va refaire le procès de la Ve République.
C'est ce que disait Olivier Faure dans un entretien au Parisien ce matin.
C'est quand même pas ça. Vous voyez, vous avez, il y a deux mots clés qui émergent de son interview. Il y a le mot écologie. Le problème, c'est qu'il est préempté. Et il est bien préempté depuis longtemps par ELV qui sont devant. Et puis, il y a le thème de la révolte sociale. Je dirais plutôt des inégalités sociales qui peuvent prendre l'allure même un peu d'une révolte sociale. Bon, là aussi, c'est les insoumis. Quelle est la place aujourd'hui pour le Parti Socialiste? La seule stratégie, c'est la stratégie de l'auberge espagnole.
C'est en appelant à l'union, en accusant les autres de diviser et de faire perdre.
Exactement.
C'est ça aussi ce que fait.
Ça, c'est la bonne rhétorique. Enfin, la bonne rhétorique, je pense que les électeurs ne seront peut-être pas dupes, mais en tout cas, c'est de se dire, nous, on est un peu de tout ça, on est le dénominateur commun. Ouais. Quelque part, c'était un peu l'idée du programme commun des années 70 et 80. Ce programme commun-là, le problème, c'est que le Parti Socialiste n'est pas en position de force, et notamment n'a pas une figure de proue, une figure clé. Mais attention, capacité agrégative du PS, de la social-démocratie, elle n'est pas totalement... Elle n'était pas totalement terminée.
C'est-à-dire que la présidentielle, c'est en 2022, et 3 ans avant 2017, on n'imaginait pas un instant Emmanuel Macron non plus.
Je pense effectivement que c'est de cette capacité à faire la synthèse et à consolider, parce qu'il y a une forme de légitimité historique sur ces sujets d'économie sociale et solidaire qui pourront faire la différence. Après, si je reprends ma casquette de communicante, le timing en lui-même de l'université est assez étonnant. En termes de visibilité médiatique, faire ça au moment du G7.
Bah, ils font ça fin août comme d'habitude, ils ne se sont peut-être même pas fait attention qu'il y avait un G7.
Voilà, mais en termes de communication, en tout cas, c'est assez complexe d'exister dans ce contexte.
Merci en tout cas d'avoir évoqué. Michel, vous vouliez 10 secondes.
Non, mais en termes de timing, de toute façon, ils ont du mal. Ils ont pris un nom socialiste pour les représenter aux européennes. Ils ont effectivement un grand problème de visibilité. Ça fait aussi partie de leur problématique. Et à part Anne Hidalgo, Martine Aubry et quelques autres, ils vont avoir du mal, effectivement, à avoir un leadership aux élections municipales l'année prochaine.
Allez, on change radicalement de sujet. On va parler de foot. De foot dans les informés. Oui, vous ne rêvez pas. C'est juste après l'info, 20h50, Armel Balogog.
Anne Hidalgo condamne un crime contre l'humanité en Amazonie. La maire de Paris est aussi présidente de l'Alliance des grandes villes pour le climat C40. Et la forêt amazonienne est l'un des plus importants biens communs de l'humanité selon elle. Et elle brûle à cause du comportement irresponsable d'un petit nombre d'hommes politiques et de dirigeants d'entreprises. L'Amazonie, c'est l'une des priorités du G7 ce week-end à Biarritz. Le sommet promet des initiatives concrètes. Plusieurs centaines de militants de la France insoumise manifestent à Toulouse. Ils dénoncent la privatisation d'aéroports de Paris. Deuxième journée des universités d'été du mouvement aujourd'hui. Le député François Ruffin propose la création d'un front populaire écologique. L'explosion de bonheur des 356 rescapés de l'Ocean Viking. Ils ont enfin quitté le navire humanitaire. Ils sont en route vers Malte à bord de petites vedettes militaires. Ils seront tous répartis ensuite entre 6 pays européens, dont la France. Donald Trump promet une réponse à Pékin et il ordonne déjà aux entreprises américaines de trouver une alternative à la production en Chine. Pékin a l'intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation depuis les États-Unis. Et puis une affiche exclusive et exceptionnelle ce soir au Festival Rock en Seine. Le mythique groupe The Cure se produit sur la grande scène. Le concert commence dans 10 minutes. Dernier grand festival de musique cet été et ça sent la rentrée.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Allez, on va parler foot, si vous voulez bien, dans cette dernière partie des informés, toujours avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Aurélie Motta, arrivée présidente de Sociter, et Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Je voulais qu'on parle de foot parce que c'est la reprise ce week-end de la D1. J'ai bien dit la D1, hein, c'est-à-dire le championnat élite des filles. Vous avez suivi le mondial féminin en France en juin-juillet, ouais, ça oui. Vous avez intéressé, par exemple Aurélie.
Je crois que ce qui était surtout intéressant, c'est que ça a donné un coup de projecteur très positif sur le football pratiqué par les femmes. Donc ça, en soi, c'est très positif, parce que je pense que sur les sujets d'égalité femmes-hommes, ce qui compte, ce sont les rôles modèles. C'est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans la culture, c'est vrai dans le monde économique, les dirigeantes de start-up, c'est vrai dans la tech et les sciences, où les femmes sont sous-représentées. Donc ça, je crois que c'est extrêmement positif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir concrètement ce que ça va changer.
Bah oui. Est-ce que ça va changer des
dans
choses
le moyen et dans le long terme,
ne va pas retomber.
Voilà, donc c'est ça qui va être très intéressant. Il faut voir si c'est suivi d'actions et d'actes concrets. Je crois et j'ai cru lire que plus de femmes s'étaient inscrites dans les clubs, donc il y a eu un effet rôle modèle, manifestement.
Et on attend la rentrée des classes.
Voilà.
En plus,
maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les femmes footballeuses vont être autant payées que les hommes, par exemple?
Elles le sont malheureusement beaucoup moins que, par exemple, en Norvège, où elles gagnent beaucoup plus qu'en France.
Vous avez vu qu'aux États-Unis. Et est-ce que les partenaires économiques vont continuer à investir dans le football féminin comme ils le font dans le football masculin?
Et aux États-Unis, pays où vraiment le foot joué par les filles est leader, parce que c'est quand même elles qui gagnent toutes les Coupes du Monde depuis qu'elles existent, les Américaines sont carrément en combat devant la justice pour obtenir l'égalité salariale avec les hommes joueurs de soccer, alors qu'elles remplissent plus de stades, puisque le foot, le soccer aux États-Unis, c'est pas le sport roi côté sport masculin.
Vous voyez que les États-Unis peuvent parfois être un bon exemple.
Elles sont pas encore arrivées. Elles sont en justice pour l'obtenir.
Non, mais attendez, si le foot féminin en France avait la même popularité, la même audience qu'aux États-Unis, on serait très content. Moi, je pense effectivement que c'est un marqueur de société. C'est les valeurs que l'on vit, qu'on essaie de promouvoir, c'est dans le sport qu'elle se joue autant que dans la géopolitique ou le G7 de Biarritz. Et le fait de voir que le foot féminin est devenu un spectacle avec autant d'audience, ils ont dépassé plus de 10 millions
d'audience. Là, c'est Canal Plus qui va diffuser les rencontres comme la Ligue 1 des garçons.
C'est très bien, il faut saluer.
À mon avis, il n'y aura pas la même audience.
Non, mais c'est une très bonne démarche parce qu'il faut être volontariste pour montrer l'exemple et plus que pour montrer l'exemple. Parce qu'encore une fois, la demande sociale est là. Les femmes aiment jouer au foot. Il y a de plus en plus d'inscrits, de même qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des sports de combat. Et le monde, il change. Il change par la base également.
Et vous savez, il y a de plus en plus d'hommes qui font la cuisine si on se va dans, si on va dans les évolutions.
Exactement.
Mais sérieusement,
c'est très bien.
Comme ça paraît fou, mais il y a 50 ans, on mettait...
Exactement. Et donc, si vous voulez, et donc, le fait que le championnat de foot féminin reprenne, c'est un événement important. C'est pas aussi connu que le foot masculin, bien entendu. Mais moi, je pense aussi une chose, je l'ai écrit pendant la Coupe du Monde du foot féminin, c'est que le foot féminin en plus est très télégénique. Et très télégénique parce que elles ont une manière de faire du foot qui est sur le plan technique extraordinaire. Plein de joueurs de l'équipe de France de football masculin ont vanté la technicité
de leur football.
Exactement.
Ça joue plus au ballon.
Voilà. Et donc sur tous les plans, c'est très important. Et effectivement, il faut souhaiter que le championnat soit un gros succès. Et télégénique et dans les stades dans les mois qui viennent.
Franck Milieu.
Est-ce que ça va être un gros succès? J'ai lu qu'il y avait 3500 licenciés en plus. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
C'est très difficile à dire. C'est qu'ils vont pas remplir le Parc des Princes.
Et puis il est possible aussi qu'au fur et à mesure, après l'engouement des premiers temps, au fur et à mesure de la saison, ça s'émousse. Je crois qu'en fait le critère déterminant, bien sûr, on parle d'investissement et il y a eu, je crois, un effort de la fédération. Mais au-delà de cela, je crois que c'est quand même le public. Est-ce qu'il va y avoir du public dans les stades?
Pour qu'il y ait du public, il faudrait qu'il y ait du suspense. Et visiblement, le PSG, Bordeaux, Montpellier se sont renforcés un peu pour qu'il y ait un suspense. Parce que c'est dans un championnat dont on sait qu'il est plié d'avance, c'est pas très rigolo non plus. Avec
Lyon, il faut qu'il y ait du suspense, mais il faut aussi, en l'occurrence, qu'il y ait du public de tous les genres. Alors, il se trouve que à Paris, c'est plutôt le public est plutôt masculin et il y a une sorte de solidarité pour aider le football féminin et on assiste les hommes assistent. La clé du succès, ça va être au fond, est-ce que les femmes aussi, vont aller dans les stades de foot? Aux États-Unis, c'est le cas. Est-ce que ce sera le cas en France? J'ai envie de vous dire, c'est très difficile à savoir, mais je crois que finalement, pour que ça prenne, hein, il faudra que les, enfin, il faudrait, hein, que les femmes soient aussi dans les stades, soient supporters au même titre que les hommes, et que finalement il n'y ait pas une sorte de genre dans les tribunes, quoi.
Qu'on soit
après
tous
ça, je sais pas ce que ça donne
en famille, voir un coup les garçons. Un coup les filles.
Ah bah peut-être voilà. Pas. Exactement. Non, peut-être, il y en a qui a donné l'exemple depuis longtemps qu'il faut quand même citer, c'est Jean-Michel Aulas qui a quand même depuis très longtemps fait du foot féminin une priorité de sa stratégie.
Vous voulez dire aller voir les deux.
Oui, aller voir en famille. Un coup les garçons.
Oui,
un coup
j'avais,
les filles.
J'avais pas saisi. Pardonnez-moi.
Aimer son club, être supporter par exemple de Lyon et aller tout autant.
Alors après, je sais pas si ça va marcher parce qu'il faut pas croire non plus que cette audience là, elle vient que du public féminin ou que du public masculin. C'est pas évident.
Famille, comme
tout ça n'est pas évident.
Vous voulez rajouter un mot?
Non, juste pour élargir, je trouve que c'est intéressant. On a vu que la FIFA, effectivement, avait mis un coup de projecteur aussi très fort sur le foot féminin, y compris dans les écoles, avec un programme avec l'UNESCO, que l'UNESCO s'est beaucoup engagée sur ces sujets parce que l'éducation des filles et des femmes est une priorité. Pourquoi c'est une priorité? Si on élargit un tout petit peu, parce que c'est un levier aussi formidable de transformation du monde. Et donc, pour revenir à tous nos sujets, le sujet climatique en particulier, les femmes vont jouer un rôle majeur sur ces sujets.
Majeur et pas malheur. Oh, le terrible lapsus. On termine alors avec les unes, s'il vous plaît, de vos publications respectives. Michel Taube, Opinion Internationale.
Alors, écoutez, plusieurs sujets, mais il y en a un que j'ai envie de mettre en avant. C'est un peu la fin des vacances. Il y a des airs encore un petit peu d'estivale. J'aimerais inviter les auditeurs de France Info à lire une chronique littéraire de Anne Bassi qu'on publie pour des livres pour finir l'été en beauté et pour préparer la rentrée.
Ça, c'est
important de lire des livres. L'article s'appelle « L'écume des pages ». Je le recommande
pour ceux qui prennent des vacances tardives au bord de la mer, on va aller lire ça. Franck de Demarie.
Alors nous, on fait notre une sur les ignares au pouvoir, en politique, dans les entreprises, dans les médias. Ben, la culture générale s'effondre et je vous invite à le lire. Oui. On est aussi modeste parce que ça aussi, ça nous concerne à nous aussi.
Nous aussi, évidemment. J'espère qu'on n'aura pas été trop ignares ce soir dans ces informés. Merci beaucoup également Aurélie Motarivé d'avoir participé à ces informés qui seront de retour dès lundi à 20h. Ce sera la rentrée de France Info lundi. Permettez-moi de signaler le retour de l'émission à la radio, bien sûr, mais aussi à la télé sur le canal 27 de la TNT et le retour aux manettes de l'ami Jean-François Aquili. J'étais très honoré d'avoir présenté quelques-uns de ces informés de l'été.